Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 31 janvier 2019. Eh oui, déjà un mois d'hiver, ben, deuxième mois d'hiver de terminé. Ici Monique Kiroak, en compagnie de mes collègues habituels, donc Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour Marie. Bonjour. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Fait plaisir de vous revoir, chers
oui,
collègues,
merci.
D'une semaine à l'autre. Et avec Maurice Bolduc, bien sûr, à la régie. Bonjour,
oui, bonjour.
Maurice.
Bonjour.
Alors, nos sujets aujourd'hui. Marie, en première partie, de quoi nous parlerez-vous?
Je vous parle des différents types de motivation.
De motivation
chez les enfants.
Chez les enfants.
Chez les enfants. En fait, ça peut être chez les adultes aussi, mais dans cet article-là, c'est chez les enfants.
Et il y en a quelques-uns.
Les oui. adultes qui se sentent enfants, ça marche aussi?
Je pense que oui.
Je pense que oui.
Okay.
Oui,
tout à fait. Mm-hmm. Et de votre côté, Yvan?
Moi, je vais vous parler de quelques éléments que j'ai trouvés dans l'infolettre Le clin d'œil de l'Association sportive des aveugles du Québec. Et l'autre élément, c'est que ça m'arrive, moi, que je vais faire l'exercice, puis quand je reviens, il y a un arrêt d'autobus devant un McDonald's.
Ah oui, c'est très, très bien ça. Ça va très bien ensemble. Bon, et bien, de mon côté, en première partie, je vais vous parler du brouillard.
Du brouillard.
Du brouillard. Semble-t-il que l'analyse du brouillard pose vraiment un défi de taille aux chercheurs pour en tenir les tenants et aboutissants.
Okay.
Alors, parce qu'il a quand même une importance non négligeable, semble-t-il.
Le brouillard.
Le brouillard.
Eh bien, coudonc.
Alors
on,
voilà.
On reste dans le brouillard.
Donc, nous sommes prêts à commencer. Alors, Yvan.
Oui.
Vous nous parlez d'un article, donc,
ben, moi, je
d'infolettre, en
oui,
fait.
Oui, c'est ça. Hein? Je reçois donc... tous les mois l'infolettre Le clin d'œil. C'est l'infolettre de l'Association sportive des aveugles du Québec. Et je vais faire mon commentateur sportif de moi-même et vous en lire quelques morceaux. C'est sur les activités sportives de l'association pour le mois de février. En fait, ça a commencé en janvier, puis ça s'en va dans février. Alors, les activités sportives pour l'élément jeunesse. Cet hiver, les activités pour les jeunes débutent en janvier et en février. Trois programmes ont lieu lors de cette session. Du sport pour moi, initiation à Montréal, en cours depuis le 19 janvier. Mini goalball à Montréal en français et mini goalball à Québec, qui a débuté le 12 février. Le mini goalball à Montréal, ça va débuter le 3 février. Le programme du sport pour moi à Montréal propose cette session-ci une initiation des participants au ski de fond, à la raquette et au judo.
Oh, pardon. C'est ma chaise.
Oui. Le programme de mini goalball à Montréal et à Québec permet aux enfants de se perfectionner dans le goalball. Le goalball, c'est un sport qui a été conçu pendant la guerre spécifiquement pour les personnes en perte de vision.
Mm-hmm.
Il s'agit de faire rouler une balle, un ballon avec des petites clochettes dedans dans un but. Et les gens soit essayent de le faire rentrer dedans ou essayent de l'empêcher. Ils sont
avec
couchés par
pied?
Terre.
Oh non.
Non, ils sont couchés par terre.
OK.
Oui, c'est très exigeant physiquement. Et de participer à un tournoi amical qui aura lieu dans le cadre du Challenge hivernal le 23 mars à Québec. Et l'album photo du programme jeunesse de l'ASAQ hiver 2019 sera disponible lors de la prochaine édition du Clin d'œil. Puis là, on va pouvoir voir nos petits sportifs en action. Du côté adulte, le tennis sonore, c'est jouer au tennis, mais sans vraiment bien voir. La session d'hiver de tennis sonore débutera le mercredi 6 février. Pendant 10 semaines, Sabrina, l'instructrice, vous aidera à découvrir ce sport et à vous améliorer grâce à une panoplie d'exercices. Des matchs hebdomadaires permettront de mettre les apprentissages en pratique. L'activité est ouverte aux personnes âgées de 14 ans et plus. Donc, ça a lieu du 6 février au 10 avril. C'est toujours de 19h, de 18h à 19h30. C'est au gymnase de l'école secondaire Joseph Charbonneau, au 8200 rue Rousselot. C'est au métro Jarry. Le coût, c'est 125 $ ou 140 $, incluant la cotisation pour devenir membre de l'ASAQ. Et le matériel, l'association prête les balles et les raquettes. Ça prend un minimum de 4 participants pour que l'activité ait lieu. Ensuite, il y a un goal, toujours pour les adultes, il y a du goalball récréatif. C'est le jeudi 7 février que reprendra l'activité de goalball récréatif adressée aux personnes malvoyantes, non-voyantes et voyantes âgées de 16 ans et plus.
Yvan, est-ce que c'est Gold, G-O-A-L ou Gold, G-O-L-D?
C'est G-O-A-L, hein?
Ah,
j'ai-tu prononcé ça? Ouais,
non,
peut-être,
mais
hein?
C'était...
Nul
c'est
besoin.
Mon oreille.
Non, non, c'est G-O-A-L. C'est probablement ma faute. Nul besoin d'y avoir déjà joué pour s'inscrire. Veuillez noter que l'horaire, le lieu, le coût de l'activité ne sont pas les mêmes qu'à la session d'automne. Donc, ça a lieu le jeudi du 7 février au 11 avril de 18h30 à 20h. C'est au gymnase simple du Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique qui est situé au 75 rue du Square Sire-Georges-Étienne-Cartier à Montréal. Un point de rencontre sera fixé à la station Place Saint-Henri autour de 18h chaque jeudi pour amener les gens au gymnase. Ça coûte 115 $ ou 130 $ en incluant l'adhésion à la SAQ. Et la SAQ prêtera des bandeaux, des genouillères et des coudières pour la durée de la session. Si vous en possédez, nous recommandons le port d'un jackstrap et d'un protège-hanche. Un minimum, encore là, de 4 participants est requis pour que l'activité ait lieu. Et dans tous ces cas-là, pour vous inscrire, vous contactez une Mme Naomi Douarilus à animation@commercialsportaveugle.qc.ca ou bien vous appelez au 514-252-3178 au poste 3716. Donc, c'était les activités sportives qui étaient présentées dans l'infolettre « Le clin d'œil » de l'Association sportive des aveugles du Québec.
Une très belle offre. Merci beaucoup, Yvan. Alors, je vous amène dans le brouillard.
Oui, on a
En fait, c'est Annie Labrec, qui est journaliste pour la revue Québec Science, de la version de janvier-février 2019, qui nous y amène. Alors, elle nous dit que s'il y a un événement météorologique qui est difficile à prévoir, c'est bien le brouillard.
Mm-hmm.
On estimait la durée des épisodes est tout aussi complexe parce que les scientifiques ne comprennent pas bien comment ces nuages au sol se forment et disparaissent. Alors, pour éclairer ce mystère, des chercheurs américains et canadiens ont travaillé ensemble au large des côtes de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse l'automne dernier. La compréhension de ce phénomène-là, c'est vraiment important. C'est une question de sécurité,
mm-hmm.
entre autres pour la navigation, parce qu'elle devient difficile, difficile et dangereuse dans le brouillard, surtout pour les aéronefs et les bateaux.
Mm-hmm.
Il y a des problèmes d'instrumentation qui peuvent survenir et provoquer des accidents, nous souligne Arindra Joseph Fernando, qui est chercheur à l'Université de Notre-Dame en Indiana, et directeur de ce projet qui est nommé CFOG. Alors, C, trait d'union, F-O-G.
Et non pas S-E-A.
Non,
c'est...
Oui, exactement. Oui, ça aurait pu être ça, oui. En effet. Donc, le brouillard est composé de fines gouttelettes d'eau ou de glace en suspension. Semble-t-il que c'est bien connu, mais moi, j'ai appris ça.
J'aime bien le rappel.
C'est ça. Alors, nos chercheurs tentent d'améliorer les connaissances en recueillant des données sur la taille, la vitesse, la turbulence et la thermodynamique de ces petites particules, nous explique toujours notre chercheur américain. Alors, il travaille en collaboration avec des scientifiques, notamment d'Environnement Canada, et de l'Université Dalhousie, qui se trouve donc dans la région où ils ont fait les analyses, ainsi que les Forces armées américaines et la National Science Foundation, qui finance en grande partie cette recherche. Donc, on voit que c'est pas banal,
non.
Puisque beaucoup de gens conjuguent leurs énergies pour s'y pencher. Fait assez cocasse, inusité, l'équipe a également embouteillé des échantillons de brouillard à l'aide d'un dispositif qui l'aspire et le condense. Pourquoi? Ben parce que le brouillard se forme autour d'une particule de polluant. Ces bouteilles contiennent donc des particules polluantes susceptibles d'influencer la formation du phénomène. On peut se demander pourquoi avoir choisi Terre-Neuve. Eh bien, comme lieu d'observation principal, c'est parce qu'il s'agit de l'endroit le plus brumeux au monde.
Au monde.
Au monde, on détient un record. Alors, la zone est d'intérêt car les courants du Labrador et du Gulf Stream s'y rencontrent et que ça provoque un gradient de température. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est un gradient? C'est la quantité de variation de température dans l'atmosphère avec l'altitude. Alors, on exprime ça en degrés Celsius et en mètres, 100 mètres. Donc, variation de température et le gain par rapport au gain d'altitude. Alors, une autre chose que nous apprenons. Cela nous permet donc de vérifier l'incidence du changement de température sur la formation du brouillard. Ce qui est un peu bizarre, ironique, c'est que l'équipe de recherche n'a connu que 7 jours de brouillard durant son séjour scientifique de 46 jours, contrairement, semble-t-il, les prédictions qui étaient plus élevées que ça. Alors, mais ils ont quand même collecté des données pertinentes malgré le peu de jours, en fait, la diminution de jours qu'ils espéraient. Alors, l'équipe espère qu'au terme de l'analyse des données, ils seront parvenus à de meilleures prévisions météorologiques. Ils tentent en fait d'élaborer un modèle robuste qui va améliorer d'au moins 20 à 30 les prévisions relatives au brouillard. La recherche sur le brouillard avait été délaissée dans les années 40, faute d'outils suffisamment perfectionnés. Mais maintenant, on le sait, la technologie avance, progresse de façon fulgurante. Armé de technologies de pointe, le groupe de recherche CIFOG réussira, on l'espère, à dissiper quelques mystères.
À dissiper quelques mystères.
Oui, oui, je vous ai sauté quelques images, là, parce que bon, il y en avait une, moi je vais vous la donner, sortir du brouillard, quoi. Voilà. Alors, c'était un article fort joliment écrit et bien vulgarisé, je trouve, par Annie Labrec pour Québec Science de janvier-février 2018.
Oui, notez le nom, parce que je vais y revenir.
Ah, d'accord. Allons voir.
Brouillard par la formation Palatine.
Merci Maurice. Alors Marie, je pense, 3 ou 4 types de motivation, n'est-ce pas?
Les différents types de motivation, on va laisser ça ouvert.
D'accord.
Selon une théorie, c'est la théorie de l'autodétermination. C'est un doctorant qui s'appelle Patrice Cyril, et je m'excuse parce que je ne vais pas bien prononcer son nom de famille, A-E-E-I-N-O-U. A-H-E-H-E-H-I-N-N-O-U. Alors, j'ai donc lu ce texte-là sur le site RIRE, le réseau d'information sur la réussite éducative. Et donc, ça parle de motivation, puis je trouvais ça intéressant. Les comportements des individus en milieu scolaire, notamment ceux des élèves, peuvent s'expliquer par le degré de motivation de ces derniers à accomplir des activités pédagogiques. Mais qu'est-ce qui motive réellement les élèves à s'impliquer dans leur réussite scolaire? C'est la bonne question.
Mm-hmm.
D'après la théorie de l'autodétermination développée par Ducey et Ryan en 2002, les comportements des élèves s'expliquent par des raisons qui sont à la base de leur motivation. Ces facteurs, ces déterminants, peuvent être internes ou externes. À la base et de façon innée, tout individu, selon ce que soutiennent Ducey et Ryan, cherche à satisfaire trois types fondamentaux de besoins psychologiques. Les besoins de compétence, d'autonomie et d'affiliation. Par affiliation, on entend les relations avec autrui.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dans leur théorie d'autodétermination, Ducey et Ryan distinguent donc trois principaux types de motivation. La motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la motivation, L'amotivation. Précision. La motivation dite intrinsèque, c'est lorsque l'individu s'engage de façon volontaire et spontanée dans une activité en raison de l'intérêt et du plaisir qu'il trouve à effectuer cette activité-là sans aucune récompense externe. Par exemple, un élève qui s'engage dans la résolution de problèmes parce qu'il aime les mathématiques fait preuve de motivation intrinsèque et c'est considéré comme le plus haut niveau d'autodétermination. La motivation extrinsèque, quant à elle, renvoie à la pratique d'une activité effectuée non pas en raison du plaisir qu'elle procure, mais pour des raisons souvent externes ou des motifs instrumentaux, par exemple une punition, mm-hmm. ou une récompense, ou la pression sociale, ou l'obtention de l'approbation de quelqu'un d'autre. La motivation extrinsèque, elle, se sous-divise en quatre sous-catégories. Alors, la première, les élèves font preuve de motivation extrinsèque par régulation externe lorsqu'ils s'impliquent dans leurs études en y étant obligés par leurs parents ou lorsqu'ils attendent une récompense de leur travail.
Mm-hmm.
La deuxième sous-catégorie, les élèves s'engagent dans une activité parce qu'ils ressentent une pression interne de culpabilité ou de honte s'ils ne font pas. Et ça manifeste de cette façon-là, et il manifeste une motivation extrinsèque par régulation introjectée. Troisième type, la motivation extrinsèque par régulation identifiée, ça concerne les élèves qui s'engagent, par exemple, dans l'équipe de soccer de l'école, en sachant que leur participation aux compétitions scolaires, ça peut les préparer à la carrière sportive dont ils rêvent.
Mmh.
Quant à la dernière sous-catégorie, c'est la motivation par régulation intégrée. Elle renvoie à l'implication des élèves dans une activité quand celle-ci correspond à leurs valeurs et qu'elle est cohérente avec le concept de soi de ses élèves. Enfin, en ce qui concerne la motivation, Ducey et Ryan la définissent comme l'absence de motivation. Elle constitue le niveau le plus bas d'autodétermination. Les élèves qui font preuve d'amotivation s'engagent dans les activités sans trop connaître la raison de leur implication et sans trop savoir ce que celle-ci leur apporte en retour. Pour Ducey et Ryan, finalement, la motivation intrinsèque ne s'oppose pas à la motivation extrinsèque. Ils proposent plutôt de les considérer dans un continuum où les niveaux de motivation intrinsèque, de motivation extrinsèque, bon, externe, introjectée, identifiée, et d'amotivation fluctuent selon le degré d'autodétermination et le sentiment de compétence ressenti par l'individu. Alors, je suis certaine que ça a changé votre vie. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas.
Tout à fait, oui.
Alors,
c'est
merci à ce doctorant.
Certains comportements,
oui,
fait.
Monsieur A-E-E-I-N-O-U, qu'on peut trouver donc sur le site RIRE. Ça a été publié le 28 janvier.
Merci, Marie. Alors, en parlant de motivation, je ne sais pas de quelle nature elle est, mais en tout cas, deux associations qui...
vous allez peut-être être surpris.
D'accord, vas-y.
Alors, c'est un article de la fameuse Annie Labrecque, dont vous avez lu un article tantôt.
Oui.
dans le Québec Science de décembre 2018 et ça s'appelle « Le sport contre le Big Mac ». Dans le documentaire « Super Size Me » sorti en 2004, l'Américain Morgan Spurlock se nourrit exclusivement de repas chez McDonald's pendant un mois.
Pauvre lui.
Au terme de cette période, il constate qu'il a pris 11 kilos et qu'il a un taux de cholestérol élevé, des sauts d'humeur et des problèmes de foie, FOIE, notamment. Ce film a inspiré une étude d'Anthony Karelis, chercheur en sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. On sait que la malbouffe augmente les risques de maladies cardiovasculaires et que l'entraînement par intervalle est une méthode très efficace pour diminuer les complications métaboliques associées à ces maladies. Pourquoi ne pas combiner les deux? S'est demandé le chercheur qui a travaillé en collaboration avec son collègue Christian Duval, également à l'UQAM. Il y a près de 90 millions d'Américains qui mangent de la malbouffe quotidiennement.
Trois fois par jour.
Ça le dit pas.
Mais c'est fort possible.
Des athlètes se disent qu'ils peuvent eux aussi en manger s'ils font de l'exercice. Et j'en suis. Pas un athlète, mais manger des McDo si on fait de l'exercice. L'entraînement protège, oui, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, ajoute le chercheur. À la différence du film, leur expérience à saveur de Big Mac s'est déroulée sur 14 jours au lieu d'un mois, à la demande du comité d'éthique de la recherche, et comprenait une séance quotidienne d'entraînement intense. Les 15 volontaires étaient tous des hommes actifs physiquement et âgés de 18 à 30 ans. Ces derniers n'ont pas rechigné à l'idée d'avaler un trio McDo pour déjeuner, dîner et souper.
Voilà, je vous disais, trois fois par jour.
C'est la partie entraînement qui s'est avérée un défi pour eux, souligne le chercheur. L'entraînement par intervalle à haute intensité consistait en 15 sprints d'une minute entrecoupés d'une minute de marche sur un tapis roulant. La littérature scientifique démontre que c'est une méthode très efficace pour obtenir des bienfaits pour la santé. Le concept de cet entraînement est qu'on fatigue le muscle, on le repose et on le fatigue de nouveau.
Ça explique l'entraînement par intervalle.
Par intervalle, exactement. Grâce à cet entraînement, les participants dépensaient entièrement les quelques 3441 calories consommées tous les jours en moyenne. En revanche, ils ingurgitaient 4724 mg de sodium par jour, alors que Santé Canada recommande un apport maximal de 2300 mg
Donc
par
c'est
jour.
C'est presque plus que le double.
C'est plus que le double. Au bout de deux semaines, l'équipe de chercheurs a comparé les bilans de santé des participants avant et après l'expérience. Mis à part des problèmes gastro-intestinaux mineurs rapportés par deux volontaires, la majorité a conservé un bon état de santé, apprend-on dans l'étude publiée dans le journal Nutrients en août 2017. En général, on constate qu'il n'y a pas eu de détérioration de la plupart des paramètres à l'étude, c'est-à-dire pression artérielle, taux d'insuline et glucose. Un seul, le niveau de bon cholestérol, avait diminué avec l'expérience. Même si l'entraînement par intervalle à haute intensité peut avoir un effet protecteur contre la malbouffe, le chercheur indique que des études supplémentaires sont requises pour le confirmer. Il aurait d'ailleurs souhaité répéter l'expérience chez les femmes ou sur un plus grand groupe, par exemple. Notre objectif était d'arriver à déterminer le seuil d'activité physique minimale nécessaire, mais faute de financement, l'étude n'a pas été prolongée. Il vaut donc mieux tempérer ses envies de malbouffe, selon Annie Labrec dans Québec Science de décembre 2018. Donc, une fois de temps en temps, je vais peut-être aller prendre mon petit Big Mac après mon exercice.
Merci, Yvon.
Jean-Louis disait,
ça fait du bien d'être amoureux.
Jean-Louis disait,
ça fait du bien d'être amoureux.
Il n'y a pas mieux. Jean-Louis disait,
t'es comme toi, il n'y en a pas deux.
Jean-Louis disait,
non, j'aurais jamais trouvé mieux.
C'est du sérieux.
Jean-Louis disait, Jean-Louis pensait, Jean-Louis voulait sans plus attendre vivre ensemble à la maison. Changer Louis Dizel.
C'est si facile de vivre à deux.
Changer Louis Dizel.
C'est si facile, on fait ce qu'on veut.
C'est merveilleux. Changer Louis Dizel.
Même si c'est petit, un F2.
Changer Louis Dizel.
Même si c'est petit, c'est joyeux, tu te pousses un peu.
Ouais. Changer Louis Dizel. Changer Louis pensait. Changer Louis riait de se détendre à vivre ensemble à la maison. Changer Louis Dizel.
Tu traînes au lit, tu manges pour deux.
Changer Louis Dizel.
T'as des manies, t'es pointilleux.
Comme un petit vieux. Changer Louis Dizel.
Un lit pour deux, mais rien au pieux.
Changer Louis Dizel.
Tu prends du bide,
tu perds tes cheveux.
On fait ce qu'on peut. Changer Louis Dizel. Changer Louis pensait. Georges et Louis doutaient de vivre ensemble sans esclandre à la maison.
Sans casser les œufs.
Georges et Louis disaient.
On se coupe en quatre, on se casse en deux.
Ça va pas mieux. Georges et Louis disaient.
Y'en a des tas qui vivent à deux.
Georges et Louis disaient.
Ils n'ont pas l'air si malheureux.
Tant mieux pour eux. Georges et Louis disaient. Georges et Louis pensaient. Georges et Louis rêvaient. Georges et Louis semaient. Georges et Louis riaient. Georges et Louis rangeaient. Georges et Louis pleuraient. Georges et Louis mangeaient. Georges et Louis changeaient, Georges et Louis doutaient, Georges et Louis partaient, Georges et Louis revenaient. Georges et Louis s'élançaient, s'enlaçaient, s'embrassaient, se laissaient, s'ennuyaient, s'évitaient, se trippaient. Georges et Louis recommandaient, se tendrissaient, s'éblouissaient. En quelques mots, Georges et Louis s'organisaient.
C'est si facile de vivre à deux.
On se coupe en quatre, on fait des nœuds.
Demain, c'est sûr, tout ira mieux.
Il n'y a pas d'amour heureux.
On n'a pas l'air si malheureux.
Pas d'omelette sans casser des œufs.
Si tu crois qu'on fait ce qu'on veut.
Je crois surtout qu'on fait ce qu'on peut.
On pourrait peut-être attendre un peu.
Et pourquoi pas vieillir à deux?
D'accord, mais pas dans un F2.
Ça fait du bien d'être amoureux.
Ça fait du bien d'être amoureux.
C'est du boulot.
C'est du boulot.
Ça fait du bien d'être amoureux.
Presque oui. Georges et Louis.
Oui, presque oui. C'est trop beau, ça. Marie, oui. Un petit mot d'enfant avant
la pause. Un petit mot d'enfant. Bon, il y a plein de gens qui vont à la pêche aux petits poissons des chenons. La canne à pêche, selon Cathy Lise, qui a 7 ans, c'est un bâton avec un crochet à un bout et mon papy à l'autre.
C'est charmant. Alors, nous vous invitons à demeurer avec nous. Voix de service magazine se poursuit après cette pause. Marie, en seconde partie, de quoi nous parlerez-vous?
Je vous parle de cohérence cardiaque dans un premier temps, chez les enfants. Mm-hmm. Et ensuite, je vous parle de fêtes d'enfants. Comment on peut faire pour organiser des fêtes d'enfants simplement?
Oui, parce que c'est très complexe.
Parce que c'est fou maintenant. C'est
ce que je comprends. Oui, puis une compétition entre les parents.
Ah oui, c'est fou.
Et Yvan, de votre côté?
Moi, cette fois-ci, je vous dis que faire du plein air, ça peut être se faire raconter des histoires.
Ah oui, donc par osmose?
J'en dis pas plus!
Ah, d'accord. Moi, je vais vous parler du vol MH370.
Oui.
Est-ce que c'est trouvé? Je pense pas qu'on l'ait trouvé, mais est-ce que c'est encore possible qu'un avion disparaisse de cette façon-là?
Non.
Okay.
Mystère.
Voilà, c'est parti pour la deuxième partie. Alors Marie, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est?
La cohérence cardiaque appliquée aux enfants.
En plus.
Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est Alexandre Vigneault qui nous parlait de ça dans la presse en décembre dernier, le 4. Contrôler sa respiration, c'est une stratégie mise de l'avant dans plusieurs techniques associées au mieux-être, comme le yoga ou la méditation. Le docteur, et là vous allez m'aider dans la prononciation, David, mais son nom de famille c'est O'HARE.
Aware.
Croit aussi que de prendre le temps de bien respirer a des bienfaits que la science peut démontrer. L'approche qu'il propose, appelée cohérence cardiaque, présenterait d'ailleurs bien des avantages pour les écoliers. Développée aux États-Unis, puis popularisée en France par le psychiatre David Serban-Schreiber, avec qui David Auer a collaboré durant une douzaine d'années, le concept de cohérence cardiaque repose sur l'idée que les poumons et le cœur peuvent se parler. Ainsi, en prenant le temps de respirer profondément pendant quelques minutes, il est possible d'influencer son rythme cardiaque jusqu'à créer une harmonie entre les deux. La respiration est le seul moyen volontaire de pénétrer le système nerveux autonome, explique David Auer, auteur du livre « Cohérence Kid, la cohérence cardiaque pour les enfants », qui vient d'être publié, en fait, qui était publié donc à la fin de l'année dernière. On a là un moyen d'exploiter une petite faille du système qui fait qu'en prenant le contrôle de notre respiration, on prend le contrôle de la totalité du système. En fait, nos respirations régulières et volontaires recréent un équilibre entre nos systèmes de dépense énergétique, le sympathique, et de récupération, le parasympathique. Le stress omniprésent décale le système des adultes vers une dépense énergétique quasi constante, observe le médecin. D'où la pertinence de la cohérence cardiaque. Et les enfants, eux, sont naturellement plus décalés et ont aussi plus de facilité à revenir au point d'équilibre. Pratiquer la cohérence cardiaque aurait cependant des impacts positifs sur leur engagement et leur fonctionnement à l'école. On la pratique en groupe pour calmer les enfants. C'est un outil de travail pour les enseignants. Et c'est Nicole Saint-Pierre, qui est éducatrice à l'Académie Sainte-Thérèse de Rosemère, qui dit ça, où elle a intégré cette technique il y a 3 ans. Pour les interventions individuelles, elle a aussi développé ce qu'elle appelle l'étoile de la respiration. Il s'agit d'une étoile en carton dont les élèves doivent suivre chacune des 6 pointes avec leurs doigts tout en inspirant et en expirant. Alors, on fait les six points de cette façon-là et ça aide l'enfant à se recentrer. Ni David Auer ni Nicole Saint-Pierre n'utilisent le terme « se relaxer ». L'idée n'est pas de se détendre, mais de se rééquilibrer, de prendre une distance, de reprendre son souffle, si on veut, avant de poursuivre ses activités. Alors, je rappelle, le titre du livre, c'est « Cohérence Kid », la cohérence cardiaque pour les enfants, c'est le docteur David Auer qui a écrit ça et c'est publié aux éditions Thierry Soucar, Soucar. Et c'est Alexandre Vigneault qui en parlait dans la presse en décembre dernier.
Alors prenons tous une grande respiration.
Au moins une.
Merci. On en fait ou on n'en fait pas de l'exercice?
Oui, on fait de l'exercice.
Okay.
Mais des fois, faire de l'exercice...
Par procuration.
C'est se faire raconter des histoires. Au sens propre.
Bon.
C'est dans les carnets d'endorphines de Geneviève Lefebvre.
On est quand même intrigués.
On est un petit peu dans le brouillard.
Dans le brouillard. Hein? Oui. OK, si vous allez voir, ça va s'éclaircir. C'est dans les carnets d'endorphines de Geneviève Lefebvre dans la presse du 23 janvier 2019. Elle nous parle de Jacques Bouffard, le magnifique. Dans la neige immaculée, les traces sont si fraîches qu'on peut voir l'empreinte des coussins de pattes de l'animal. C'est quoi, Jacques? Un loup? Un coyote. Je regarde autour. Rien. On est seul sur la Dartmouth. Seul avec le vent qui épouse le lit de la rivière. Seul avec le soleil qui tape malgré le fret à faire craquer nos pas. Seul avec la nature gaspésienne. À perte de vue. C'est une de ces journées d'hiver à te faire tomber amoureux du ciel, plus bleu que le bleu de tes yeux, aurait chanté Piaf si elle était venue faire de la raquette sur la rivière avec son Marcel. Sans doute un mâle. Comment tu le sais? Quand Jacques Bouffard sourit, c'est d'abord avec les yeux. Il te plisse ça, relaxe comme si on était dans un salon de thé et pas sur une rivière gelée bien dure. À se prendre des bourrasques en pleine face. Guide à l'auberge de montagne des Chic-Chocs, propriété de la CEPAC, ce réalisateur de télévision, à qui on doit un documentaire sur Armand Vaillancourt, Le cri d'Armand Vaillancourt, a quitté le petit écran pour les grands espaces et chaque année, il prend sa semaine pour guider bénévolement les participants de la traversée de la Gaspésie. Regarde l'amplitude de la foulée et jusqu'où il creuse dans la neige. C'est un gros. Un gros mi-lourd, genre Marcel Cerdan, ou bien un vrai gros lourd, Mohamed Ali. On rit comme des gamins en flagrant délit d'école buissonnière. Ce jour-là, j'ai pris congé des skieurs de la traversée de la Gaspésie pour suivre Jacques sur la Dartmouth, paradis des pêcheurs de saumon. Je mentirais si je disais que c'est par amour pour la raquette. Mon seul but, ce jour-là, c'était d'écouter ces histoires, toutes plus épiques les unes que les autres. Raconte-moi la fois des rorquals à bosse à Hawaï, Jacques. C'était avec Jean Lemire sur un tournage, La dernière frontière. On avait eu un rare permis scientifique pour aller sur le territoire d'accouplement. À un moment donné, je suis arrivé au-dessus d'une baleine chantante, positionné la queue en l'air et la tête vers le fond marin. Son chant était tellement puissant que les ondes faisaient vibrer mon thorax.
Impressionnant.
Puis la foi de la brebis en cadeau, raconte! Ah, ça, c'était en ex-URSS, au pied de la chaîne de montagne Tian Shan, juste à côté de la route de la soie. On venait de traverser, après 300 km de randonnée lors d'une expédition d'entraînement, le Polar Bridge. On était en train de monter la tente en fin de journée quand on a vu arriver trois cavaliers, dont le chef kazakh du district, qui venait vers nous, une brebis vivante sur les cuisses, qu'il nous a lancé en guide de cadeau de bienvenue sur son territoire. Et la foi des pitons tombés dans le vide pendant votre escalade sur le mur de glace? Ah, la foi que j'ai failli ne pas pouvoir raconter. Oui! Ce jour-là, sur la rivière Dartmouth, j'avais 5 ans et je voulais que Jacques Bouffard me raconte des histoires. Les gens croient qu'on fait du sport pour se mettre en forme et puis pas tant. On fait du sport pour se faire raconter des histoires de baleines qui font éclater le plancton phosphorescent en milliers d'étoiles. Jacques, c'est le Yoda de toutes les aventures, une grande bibliothèque à lui tout seul, et l'écouter, c'est se retrouver dans un épisode de Michel Strogoff quelque part dans les steppes de Sibérie, en train d'escalader les montagnes lumineuses du Kacherboum au Pakistan ou de filmer les baleines en Alaska. Tu as eu combien de vies, Jacques? Une seule, mais pleine. Ah oui, et si vous demandez gentiment, il chante aussi. De sa belle voix de baryton basse, il te chante des chansons d'aventuriers solitaires, de femmes enchanteresses et d'amoureux qui se trouvent enfin. Même que des fois, les ondes font vibrer ton thorax. Mm-hmm. Alors, c'était le carnet d'endorphines de Geneviève Lefebvre sur Jacques Bouffard, le magnifique.
Merci beaucoup. Un beau voyage.
Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. Oust-chika. Oust-chika. La vérité nue, la vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh. chose de chouquin. Le ciel a changé, il a changé, enfin de place. Un vague âme, ouste chouka. Un vague âme, ouste chouka.
Bertrand Belin.
Merci Maurice. Alors c'est à mon tour de vous amener...
De nous parler d'amour?
Ben pas tout à fait d'amour. Je vais vous parler du vol MH370. Le titre de l'article est donc « Un avion peut-il encore disparaître des radars? » Et c'est écrit par Guillaume Lecomte-Boinet pour la revue Science et Vie de janvier-février 2019. Alors ça reste encore un très grand mystère de l'aviation civile. Parce qu'à ce jour, on ne sait pas ce qui est advenu de ce vol de la Malaysia Airlines et de ses 239 passagers qui sont disparus des radars le 8 mars 2014, et ce, au-dessus de l'océan Indien. Malgré de nombreuses campagnes de recherche, on se rappelle même l'Australie s'en est mêlée, ni l'avion, ni les boîtes noires n'ont été retrouvées. Parce que les boîtes noires, c'est quand même essentiel pour comprendre hein, les mystères de ces avions qui tombent. Alors, au-delà du drame, cette catastrophe a montré quand même certaines failles dans les dispositifs en vigueur lorsqu'un avion n'apparaît plus sur les écrans. Et ça a obligé l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, à essayer, en tout cas, de corriger le tir. Dans le cas de ce vol, l'enquête nous révèle que le transpondeur qui gère le système de communication ACAR entre l'avion et le sol a été coupé, et ce, manuellement.
Ah.
Du coup, l'ACI a décidé qu'à partir du 1er janvier 2021, on a encore 2 ans à attendre, tous les avions neufs seraient équipés d'un système impossible à couper et le signalant au sol toutes les 15 minutes. Si l'avion est en détresse, le reporting de la balise aura même lieu toutes les minutes. C'est une mesure simple et efficace qui, finalement, aurait pu s'imposer avant. Et je me demande pourquoi ça prend...
autant de temps.
Ouais, presque 7 ans, en fait, pour arriver à installer cette mesure. Mais enfin, parenthèse fermée. L'autre décision non moins pertinente, c'est la durée d'émission du signal envoyé par les balises subaquatiques qui équipe les boîtes noires. Ça a été étendu à 90 jours, alors que c'est maintenant 30. C'était 30 jours. Les balises devront aussi émettre à plus basse fréquence afin d'être repérables par un plus grand nombre d'équipements. Surtout, elles seront audibles à plus de 20 km contre 3 km actuellement. C'est quand même des modifications
importantes.
Ouais. L'OACI voit encore plus loin, également prévu pour le 1er janvier 2021, les avionneurs auront l'obligation d'installer sur leur appareil neuf un système de récupération rapide des données de vol, telles que l'altitude, le cap, la vitesse. Le principe, c'est une boîte noire éjectable et flottante qui, une fois libérée, transmet les coordonnées GPS par satellite. L'autre solution envisagée, c'est un système d'éjection des boîtes noires par pyrotechnie si les capteurs décèlent une déformation du fuselage de l'avion ou un choc violent. C'est un projet qui est baptisé Bellocopa, qui a été porté par une société française qui est à l'étude depuis plusieurs années, mais qui, en bout de piste, a été rejeté. On étudie plutôt maintenant des solutions d'éjection mécanique, alors que c'était pyrotechnique la précédente.
Mm-hmm.
Donc, dans l'espace, en tout cas, tout est déjà prêt pour capter ces signaux avec la constellation de satellites COSPAS SARSAT, qui s'est enrichie du réseau européen Galileo, équivalent du GPS américain. Donc, à partir de 2021, perdre totalement la trace d'un appareil devrait donc, en principe, devenir impossible. En tout cas, on se le souhaite.
Oui.
Alors, c'était un article de Guillaume Lecomte-Boinet pour la revue Science et Vie de janvier-février 2019. Alors, Marie, ces fameuses fêtes d'enfants, ces fêtes d'anniversaire, en fait.
D'anniversaire,
plus précisément.
C'est vrai.
Comment les faire simples
et occuper nos petits invités.
Oui.
Simplement, à peu de frais, finalement. C'est un texte d'Émilie Lupien-Durocher que j'ai trouvé sur le site tatribu.com. Alors, on se rappelle, quand on était petits, nous, ça se passait pas comme les feux d'artifice qu'il y a maintenant. C'était simple.
Et donc, il y avait la queue d'âne.
Voilà. Vraiment. Alors, quand l'auteur, Émilie Lupien-Durocher, quand elle voit les fêtes d'enfants avec ses yeux de mère maintenant, elle dit « Je vois bien des billets verts en pensant à certains anniversaires où ont été invités mes enfants. » Clown, princesse, jeux gonflables, présentation d'animaux exotiques, décor à la Pinterest. Cet événement a pris une telle ampleur qu'il faut maintenant le prévoir des semaines à l'avance pour réserver l'ensemble des activités ou le gâteau au thème in de l'année. Les anniversaires de mes enfants sont importants, ils sont fiers de grandir, contents qu'on souligne leur journée, heureux d'inviter leurs amis pour célébrer et, disons-le, bien contents de déballer quelques cadeaux enrubannés. Mais après m'être laissé, moi aussi, c'est Émilie Lupien-Durocher qui parle, après donc s'être laissée, elle aussi, emportée par toutes les belles activités, les belles idées disponibles sur le marché, j'ai décidé donc de retourner vers la simplicité. Donc voici quelques idées, 4 saisons pour une fête d'amis bien réussie, sans dépenser une fortune et sans avoir à se transformer en géo pour la journée. Première idée, une dégustation de chips et de bonbons. 5-6 bols, 5-6 sortes de croustilles et un bandeau. Le premier testeur a les yeux bandés, les autres s'entendent en silence pour choisir la saveur à goûter et lui dépose un morceau sur la langue. Le testeur goûte et essaie ensuite de deviner ce qui lui a été donné. On change ensuite de testeur. La même chose peut être faite avec des jujubes ou des bonbons vendus en vrac. Plaisir assuré, qui peut durer de longues minutes et pas besoin de vous transformer en animateur. Les enfants se feront un plaisir de gérer cette activité. La chasse aux cadeaux. Le déballage des cadeaux est un moment intéressant pour le fêter. Les autres le regardent avec envie passif. Et depuis quelques années, quand les amis arrivent, je vole leur cadeau et je le cache quelque part dans la maison ou dehors, selon la température. À l'heure du déballage, les enfants devront les chercher et les trouver ensemble. Au moment où le fêté ouvre son cadeau, celui qui l'offre pige une petite surprise dans un sac. À chacun son petit bonheur. Un dîner pizza. Vous décidez d'inviter les enfants pour un repas? Pourquoi ne pas en profiter pour rendre ce moment amusant tout en les occupant? Des pains nan, des pitas ou des muffins anglais au centre de la table, des bols de garniture de votre choix, une assiette d'aluminium identifiée pour chacun et le tour est joué. Les enfants pourront laisser aller leur imagination en fabriquant une pizza à leur image, une activité amusante et utile. Des mandalas. La fête tire à sa fin, tout le monde est un petit peu fatigué. Alors, des feuilles de mandala et des crayons de couleur sont tout indiqués. Elle a vu et vécu 6 petits garçons silencieux, assis bien concentrés à colorier des mandalas sur le thème des pirates. On peut acheter un cahier, mais il y en a plein disponibles en ligne gratuitement. Un concours d'avion. Des feuilles de papier, un tutoriel YouTube sur la fabrication d'avions et le concours est lancé. Celui qui vole plus loin, celui qui vole le plus longtemps, celui qui atteint une cible ou qui tombe dans un panier. On laisse les enfants s'inventer des défis et tester les modèles d'avions inventés. On peut décorer des cadres. Vous invitez des petits artistes, des cadres en bois, peu dispendieux, se vendent dans les magasins bon marché, des crayons de couleur, un petit peu de colle, des décorations si vous en avez, et les enfants en ont pour plusieurs minutes à bricoler un souvenir qu'ils pourront rapporter à la maison. Vous avez une imprimante chez vous? Pourquoi ne pas en profiter pour imprimer une photo qu'ils pourront mettre dans leur jolie création? Un beau souvenir pour eux et un moment de tranquillité pour vous au milieu de cette journée endiablée. Alors, on remercie, comment s'appelle-t-elle? Émilie Lupien du Rocher. On peut trouver le texte sur le site tatribu.com. Ça date du 23 janvier.
C'était charmant.
C'était charmant.
Oui.
Rien dans le bide, le cœur et les poches sont vides. Les filous sortent de leurs trous et sont à la pêche aux sous-sous. Quoi de plus anodin pour gagner son pain quotidien? Vive la foule pour plumer quelques pauvres poules qui ne savent pas qu'on les roule chez ceux que les poulets déboulent. Quoi de plus anodin pour gagner son pain quotidien? Pas du choc qui s'épanche, plutôt crever que faire la manche, même s'il y a peu de fric en avalanche. Quoi de plus anodin pour gagner son pain quotidien? La nuit tombée, direction le trou paumé, où les poches sont vidées, pour dépisser le fond du gosier. Quoi de plus anodin pour commencer le lendemain?
Quoi de plus anodin, par Camille Berthaud.
Alors Marie, deux brèves en lien oui. avec les anniversaires justement.
Pour les plus actifs, donc un parcours défi. On peut suggérer aux enfants de fabriquer un parcours où on doit ramper sous les chaises de cuisine, la table du salon. Chacun leur tour, ils inventent un trajet au sol. Ça évite la course dans la maison, et défier les autres et réussir à travers leur parcours en un temps record. Vous avez des boîtes de carton qui traînent, pourquoi pas les mettre aussi à leur disposition? Aussi, on pourrait danser, mettre de la bonne musique, fermer les lumières ou les tamiser dans un sous-sol, dans un endroit très sombre. La clé du succès, des bâtonnets lumineux. Plaisir et dépense d'énergie garantie.
Wow, ils ont quel âge, les enfants? Là?
Mais là, ça, ce ne sont pas des adolescents.
OK, d'abord.
Yvan, de votre côté?
Oui, une brève sur le goalball. Ça a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale pour un moyen de réadaptation pour les personnes qui étaient devenues aveugles pendant la guerre. Ça fait partie maintenant des Jeux paralympiques depuis 1976. C'est un sport qui est spécifiquement conçu pour les personnes ayant une déficience visuelle. C'est joué en gymnase. L'objectif du jeu, c'est de faire rouler ou rebondir un ballon qui contient une clochette de manière à le faire pénétrer dans le but adverse alors que les joueurs opposants essaient de bloquer le ballon avec leur corps. Pour égaliser les chances entre les joueurs aveugles et malvoyants, tous doivent porter un bandeau. Le terrain de goalball est délimité par du ruban adhésif. sous laquelle est délimitée par une bande de ruban adhésif sous laquelle une ficelle au centre crée une ligne tactile, ce qui permet de se situer dans l'aire de jeu. Et c'est un sport unique pour le spectateur, étant donné le silence total requis pour faciliter la concentration des athlètes.
Marie, vous avez une autre brève sur les...
Oui, alors on les laisse jouer. Des jeux libres, c'est sain, ils auront du plaisir. Ils pourront même vous étonner par leur capacité à s'occuper eux-mêmes d'eux-mêmes. Et si jamais ils finissent par tourner en rond, on peut sortir des draps pour qu'ils puissent se fabriquer des cabanes, une boîte de costumes ou un gros bac de Lego, pourquoi pas?
Ah oui.
Du plaisir.
Oui, on oublie les choses tout à fait simples.
Ben oui.
Et pourquoi pas le jeu d'âne?
Et pourquoi pas?
Marie, un petit mot d'enfant.
Oui, alors, un miroir. J'ai perdu ma page. Selon Gauthier, qui a 6 ans et demi, il sert à la grosse chanteuse qui est mariée à Tintin à se voir quand elle meurt à force de chanter faux.
Bon, alors, je n'ai pas le temps pour moi-même une brève. Alors, je vous dis que, ben voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je remercie surtout Marie et Yvan pour le choix de leurs articles.
Merci, Monique,
et Maurice
aussi
pour le choix de sa musique et bien sûr son contrôle de la technique. Alors, au plaisir, à la semaine prochaine.